C'est l'histoire.
L'histoire.
Avec un grand I.
Quelle histoire ?
Chaque semaine, la fine équipe de l'histoire avec un grand I étudie avec vous un nouvel événement historique.
188 litres par habitant et par an en République tchèque, 99 en Allemagne, 95 en Namibie, 65 en Belgique, 32 en France. De quoi parle-t-on ? De la consommation annuelle de bière par habitant et par pays. Alors si la République tchèque bat tous les records de consommation ces dernières années, la bière a pourtant été inventée ailleurs et il y a fort longtemps. La bière, son histoire avec un grand I, remonte à Sumer dans l'Antiquité, au 4e et 3e millénaire avant Jésus-Christ. Ce sont les Sumériennes qui auraient été les premières découvertes du processus de fermentation nécessaire à la création de cette boisson qu'on connaît bien maintenant. Alors pour explorer avec moi l'histoire de la bière qu'on a rapidement retrouvée ailleurs dans le monde, en Mésopotamie certes, mais aussi en Égypte et chez les Incas, je suis entouré en studio des meilleurs historiens radiophoniques. Bonjour Alexandre Bolin.
Bien le bonjour.
Bonjour Julien Marel.
Bonjour, bonjour à tous.
Bonjour Thierry Lafleur.
Bonjour.
L'histoire avec un grand I sur Prune.
Alors une fois n'est pas coutume, peut-on commencer par rappeler à quel point la bière est devenue une boisson universelle aujourd'hui et pourquoi ?
Bah attendez, déjà nous autour de la table on en est très férus,
bon.
On fait des petites dégustations régulièrement.
Oui, et assez régulièrement, d'ailleurs on en a une prévue cette semaine aussi.
C'est vrai, on y va vendredi.
Oui. Il y a une dégustation hebdomadaire ensemble, d'ailleurs si vous voulez vous joindre à nous Guillaume.
Bah avec plaisir, avec grand plaisir, bien entendu.
C'est moi qui ramène la bouteille cette fois-ci.
Cette semaine c'est... pour Alexandre. Donc voilà, une boisson populaire, un vecteur social, dans beaucoup de cultures. Et voilà, on n'y est pas étranger, je pense que nos auditeurs non plus.
Donc cette bière, elle remonte a priori à Sumer. Est-ce que les historiens et historiennes sont certains de ça, d'avoir daté cette première bière dans cette période de l'Antiquité ? Et qu'est-ce qu'on a comme preuve ?
Alors, oui.
On est certain, oui, oui.
Oui, on est certain que c'est à cette époque-là. Et d'ailleurs, on a le premier tonneau. Premier tonneau qui est exposé au Louvre.
Oui.
Et qu'on a daté. Alors, est-ce qu'il a existé d'autres tonneaux avant ? Non, parce que sur le tonneau est écrit en sumérien le premier tonneau. Donc, on imagine que non, le premier tonneau de bière, en effet, date des Sumères.
Mais d'ailleurs, on peut le goûter. Nous, on a eu la chance de le goûter dans le cadre du congrès des historiens.
Oui.
On a pu goûter le reste de cette bière.
Après, c'est une reconstitution chimique. Hein. Ce n'est pas le...
Non. C'est grâce aux traces.
Oui, bien sûr.
Oui. Bon, une IPA, somme toute fruitée.
Oui.
Plutôt forte.
Mmh. Ouais, parce que vous n'aimez pas beaucoup l'IPA, vous.
Non, pas trop. Non, je ne suis pas un grand fan de ça. Non.
Non, mais moi, j'aime bien. Je trouve qu'elle a du caractère, en tout cas.
Elle a du caractère. Alors c'est étonnant pour un premier tonneau d'avoir quelque chose qui a l'air, d'après votre description, de buvable et de bon.
Alors oui, après ça a été une reconstitution. Je pense que le but n'était pas d'empoisonner,
d'empoisonner
les historiens présents au congrès. À l'inverse de ce qui était normalement prévu pour ce premier tonneau de bière, qui était prévu pour être un poison.
Eh oui.
C'est censé être un poison au début, la bière ?
Et oui, alors un malheureux échec, mais un échec néanmoins.
Un échec. Moi, je considère ça comme une réussite.
Bah, un échec pour Bierin, qui était une sumérienne qui voulait assassiner un riche noble sumérien, et qui, en tentant des diverses expériences, a inventé justement ce premier tonneau de bière.
Alors, le but... Le but de cette sumérienne à l'époque était de justement prendre le pouvoir, enfin de faire tomber le dirigeant à l'époque pour prendre sa place. Et il se trouve que voilà, elle avait juste besoin de déclencher chez lui cette ébriété, finalement de le désorienter pour finalement réussir à l'assassiner de la manière la plus aisée possible. Cependant, il s'est avéré que la boisson a eu un succès. Dans cette soirée où finalement le tonneau a été servi, que finalement il n'y a pas que son époux qui en a bu, que tout le monde en a bu et que ça a été un succès. Mais tout le monde s'est retrouvé en état d'ébriété quand même.
Mais oui, Bierin donc qui a créé cette bière et a donné son nom bien sûr à la boisson, a gagné en popularité à ce moment-là et est devenu a ouvert son échoppe de bière et a finalement vécu une vie très heureuse. Sans devenir dirigeante de son territoire.
Ce qu'il faut, c'est qu'on a su bien plus tard qu'elle avait tenté d'assassiner quelqu'un cette soirée.
Oui, bien sûr.
On a retrouvé sous le tonneau une deuxième inscription. Donc, elle avait écrit le premier tonneau. Et elle avait écrit dernier soupir, bien fait pour toi, Kleptyr, qui était le nom du noble de l'époque, du noble sumérien. Voilà, c'est notre piste et c'est ce qui a amené les historiens sur la piste de.
Et puis il y a aussi une plusieurs têtes de mort qui sont dessinées à côté.
Oui, bien sûr.
Il n'y a aucun doute quant à.
Ah non, aucun doute. Mais c'est cette piste qui nous a amené sur cette idée de se dire que la bière était potentiellement n'était pas quelque chose de prévu comme étant bon et consommable.
Bien sûr.
Mais c'est là que pour moi, enfin, si on regarde l'histoire avec du recul, finalement le succès de Biérine est autre, puisque à l'époque la consommation d'alcool est interdit aux femmes. Les liqueurs, etc., et les bières que font Biérine sont réservées aux hommes. Les hommes qui se retrouvent en état d'ébriété et qui sont plus capables de dire pain beurre au bout de quelques verres. Et finalement, on se retrouve dans une période où c'est vraiment les Sumériennes qui prennent le pouvoir et qui prennent en main la société telle qu'on la connaît aujourd'hui et qui ont fait évoluer la société grandement. Enfin, c'est grâce finalement aux femmes sumériennes et grâce justement au fait qu'elles ont pu s'émanciper grâce à l'ébriété des hommes qu'on en est là aujourd'hui.
Voyant un grand pouvoir d'émancipation dans la bière, Biérine et d'autres sumériennes continuent à distiller de l'alcool et inventent plusieurs boissons alcoolisées qui sont encore célèbres aujourd'hui. Le whisky a été inventé à cette époque, mais également la vodka qu'on imaginait provenir des pays de l'Est provient en réalité de Sumérie de l'époque. Donc voilà, c'est aussi un outil d'émancipation pour cette société.
La bière comme un outil d'émancipation. Est-ce qu'on peut revenir sur quel est le processus pour créer de la bière? Qu'est-ce qui s'est passé dans ce premier tonneau?
Alors, on prend du grain destiné aux poules, qu'on moue avec un caillou.
Un caillou.
Ouais. Oui. On le met dans un tonneau. On y ajoute
un peu d'eau.
On secoue très fort le tonneau
pour faire des bulles. Et après, on peut ajouter une variété de plantes selon notre richesse, mais peut-être même d'épices, bien que les épices à l'époque avaient un prix inestimable. Elle y avait mis de l'herbe, tout simplement.
Elle avait mis de l'herbe qui était prémâchée par son cheval. Oui. Ça, c'était vraiment un petit coup de pour le noble Kleptyr qui était ajouté, mais finalement qu'elle a gardé dans la recette initiale par peur de perdre ce goût emblématique qui a fait de la bière un succès.
Et elle a laissé sous le soleil de Sumer pendant 2 semaines. Et au début, elle pensait que c'était le soleil qui donnait ce pouvoir à la boisson. Et donc, c'était une part très importante du processus.
Et en fait, non, pas du tout.
Non, le soleil de Sumer n'a rien d'exceptionnel. C'est le même soleil que dans les autres régions du monde.
Très bien. Donc, on a là la recette de la première bière. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut conseiller à refaire chez soi?
Non, surtout pas. Surtout pas. C'est à l'époque, ils avaient l'estomac bien accroché quand même en Sumérie. Il fallait voir ce qu'ils mangeaient là-bas. Aujourd'hui, si vous buvez une bière qui a été composée avec ce processus, vous ne vous levez pas pendant 2 semaines, c'est dangereux. Non,
mais,
surtout pas.
Mais d'ailleurs, c'est étonnant qu'en mélangeant du grain destiné aux poules et de l'eau et de l'herbe mâchée par un cheval, elle se soit dit que c'était un poison efficace.
Alors, ce premier tonneau, il a eu visiblement du succès. Est-ce que, dès le lendemain, il y a eu une industrialisation, on va dire, de la production de bière. Et est-ce qu'on a vu la bière s'étendre à travers le monde et pas juste à Sumer?
Alors, on est resté à Sumer au départ, hein, parce que, comme je vous le disais, il y a eu une grande transformation de la société sumérienne à cette époque-là. Mais par contre, oui, dès le lendemain, Biérine, avec d'autres sumériennes, lance la production d'autres tonneaux. Et d'autres alcools finalement, enfin d'autres tests sont faits dans d'autres tonneaux pour utiliser justement l'alcool comme méthode justement d'émancipation et comme méthode de pouvoir prendre le pouvoir dans cette société à l'époque.
On a d'ailleurs retrouvé pas mal de tonneaux, puisque étonnamment Biérine continuait de les numéroter. Le 3e tonneau, le 100e tonneau, etc. etc. Ils ont fini par arrêter au bout d'un moment, ça n'avait pas de sens. Mais
Et puis les nombres sumériens n'allaient que jusqu'à 1000.
Oui.
C'était aussi une limite.
On va continuer d'en parler, mais en fait, ce qui paraissait comme une bonne idée et qui a été une bonne idée au départ va finalement prendre une toute autre tournure par la suite.
Tout à fait.
Et on en a encore les échos, encore aujourd'hui, comme tout événement de l'histoire, finalement.
Alors, justement, avant de creuser cette facette-là, je vous propose une petite pause musicale.
Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, Dieu qu'on est bien. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, donne-moi la main. C'est plein d'Eulenspiegel et de ses cousins et d'arrière-cousins de Bruegel l'ancien. C'est plein de vent du nord qui mord comme un chien, le porc qui dort, le ventre plein. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, Dieu qu'on est bien. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, donne-moi la main. C'est plein de verres pleins qui vont à kermesse comme vont à messe vieilles au matin. C'est plein de jours morts et d'amour gelé. Chez nous y'a que l'été, que les fillettes encore. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, Dieu qu'on est bien. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, donne-moi la main. C'est plein de finissants qui soignent leurs souvenirs en mouillant de rire leurs poiluchons blancs. C'est plein de débutants qui soignent leurs véroles en caracolant de Prosit en Skoll. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, Dieu qu'on est bien. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, donne-moi la main. C'est plein de coffres d'hommes, c'est plein d'Amsterdam. C'est plein de mains d'hommes au groupe des femmes. C'est plein de mes mères qui ont depuis toujours un sein pour la bière, un sein pour l'amour. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, Dieu qu'on est bien. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, donne-moi la main. C'est plein d'horizons à vous rendre fou. Mais l'alcool est blond, le diable est à nous. Les gens sans Espagne ont besoin des deux. On fait des montagnes avec ce qu'on peut. Ça sent la bière de Londres.
Et nous voilà dans l'histoire avec un grand I. C'était la bière de Jacques Brel, très facile. Juste avant de cette pause musicale, on a laissé apparaître ce sujet de l'impact sociétal de la bière. Est-ce qu'on peut le creuser un peu ? Qu'est-ce qui a changé à Sumer grâce à cette bière ?
Alors, ce qui a changé grâce à la bière, c'est comme on disait, c'est que le pouvoir s'est retrouvé dans les mains des femmes, donc des Sumériennes. Parce que les hommes, comme on le disait, étaient ivres en permanence, parce que gros consommateurs d'alcool. Et en fait, la loi n'a jamais changé, c'est-à-dire qu'on a continué à garder cette loi que les femmes n'avaient pas le droit de consommer de l'alcool. Et d'autant plus que maintenant, les femmes étaient au pouvoir, et exclusivement des femmes.
Mais au pouvoir de manière officieuse, parce qu'en fait, c'était le plan de Biérine, finalement. Lorsqu'elle s'est rendue compte du pouvoir émancipateur de l'alcool, elle a ouvert un lieu où elle servait de ses dernières créations gratuitement, et tous les hommes de Sumer venaient s'y saouler, mais comme le plus haut noble au plus petit paysan. Et alors, les femmes ont pris ce rôle, parce que les hommes étaient ivres du soir au matin. Et donc, les femmes ont pris tous les rôles importants de la société et se sont retrouvées maîtresses de Sumer.
Alors, comment ça s'est passé, justement, pour conserver, on va dire, un semblant de pouvoir d'apparat pour ces hommes sous et néanmoins contrôler la société, on va dire, en douce ou avec une posture plus dans l'ombre?
Vous savez, les hommes, ils n'ont pas vu grand-chose. Hein. Soit ils étaient en train de boire debout, soit ils étaient en train de dormir couchés. Il n'y avait pas beaucoup d'états possibles pour eux, ils ne se sont rendus compte de rien. Ils étaient dans un état complètement végétatif.
Ah bah, après 8 canons, c'est un miracle de réussir à diriger un pays. Hein.
Puis c'est la bière, enfin, le degré d'alcool était différent.
D'ailleurs, il a été diminué par la suite, parce que justement, enfin, là on va en venir. Donc Bierin qui continue son commerce toute sa vie, aux côtés de sa fille, Pléantraz, qui reprendra finalement le commerce derrière. Mais déjà, donc sur la fin de vie de Bierin, on commence à voir les effets néfastes sur la société. C'est-à-dire qu'au final, les femmes qui ont pris le pouvoir se retrouvent à devoir tout faire, finalement. Puisque, comme le disait Alexandre, les hommes sont dans un état végétatif. Ils sont soit en train de picoler, soit en train de dormir. C'est terrible.
Et ça, dès le plus jeune âge. Hein. Dès l'âge de 5 ans... Tous les hommes sont complètement ineptes et donc les femmes doivent tout faire.
Est-ce qu'on peut faire un petit tour des grands changements qui sont passés dans la société à cette période-là? Qu'est-ce qui a changé en premier? Qu'est-ce que les femmes ont cherché à faire une fois qu'elles avaient ce pouvoir, on va dire, officieux?
Déjà, l'invention des écoles. Qui ont été créés pour pouvoir justement inculquer les jeunes femmes aux choses du monde et pouvoir leur apprendre justement l'agriculture pour pouvoir utiliser ce pouvoir de transmission. Donc il n'y avait seulement que des femmes dans ces écoles-là puisque les garçons étaient ivres.
Les relations géopolitiques se sont énormément améliorées. Les pays aux alentours qui étaient très souvent en guerre se sont tous ralliés à Sumer et donc voilà, des grandes avancées politiques, géopolitiques en tout cas, à cette époque-là, dans cette région du monde. En fait, beaucoup de changements très bénéfiques pour la société ont opéré.
Au niveau de la science, des mathématiques, on y attribue aussi la construction peut-être du premier barrage tel qu'ils existent aujourd'hui. Enfin voilà, c'est incroyable.
On a trouvé un bâtiment typique de cette époque sumérienne, c'est les souloirs. Qui sont des grands entrepôts, presque des grands bâtiments. Qui ne possédait que deux pièces, une partie pour se saouler et une partie pour dormir, qui est des grands dortoirs.
D'ailleurs, en sumérien, ça se dit kalmel, qu'on pourrait traduire littéralement par entrepôt à bonhomme.
Entrepôt à bonhomme, histoire d'être tranquille, je suppose. Il y avait cette notion de parquer tout le monde ici
et c'est
pouvoir
ça,
contrôler et mener la vie au mieux. On parlait là de la situation qui a rapidement, pas dégénéré, mais en tout cas qui a montré les côtés négatifs d'avoir toute la charge sur les épaules des femmes. Est-ce que toutes les femmes ont suivi cette idée de prendre le pouvoir dans l'ombre comme ça?
En fait, c'est là que justement on a commencé à se poser des questions du côté des Sumériennes. C'est-à-dire, comment fait-on pour réintégrer les hommes dans cette société, finalement, dans cette meilleure société qu'on a réussi à créer? Et est-ce qu'on les réintègre au final? Donc au final, c'était ça la grande question.
Finalement, la société se portait mieux sans eux. Eux n'avaient pas vraiment envie de sortir de leur souloir. Était-ce une nécessité? Et c'était un peu une nécessité, parce que forcément, il y a beaucoup de choses à faire. Et donc, quand la moitié de la population est occupée à enquiller des bouteilles... toute la nuit et tout le jour, ça pose des problèmes. Parce que c'est quand même des bouches à nourrir, malgré tout.
Et donc, une fois qu'elle avait pris le pouvoir, puisque à la mort de sa mère, elle avait pris le pouvoir sur tout le reste, la fille de Bierin a essayé de réintégrer les hommes dans la société, a essayé justement de leur faire des choses. Et c'est là où la tragédie finalement a eu lieu. C'est là où les hommes finalement se sont rendus compte, en sortant des souloirs, qu'ils étaient passés à côté de beaucoup de choses, mais tout en étant ivres, ont essayé de reprendre le pouvoir tout en ne faisant rien. Enfin bref, c'était un bordel sans nom à ce moment-là en Sumer.
Oui, là, des guerres ont éclaté, toutes les avancées sociales, enfin une grande partie des avancées sociales ont été perdues.
Oui.
Et en tout cas, une bonne partie des femmes sumériennes décident de quitter le pays.
Tout à fait.
Alors justement, cette période historique très courte, mais néanmoins très importante, où en fait les hommes se rendent compte qu'ils sont saoulés à longueur de journée, on en a fait des films. Et je vous propose d'en écouter un extrait.
Je vais pisser dehors.
Hey,
je vais pisser dehors. J'en ai marre de pisser dedans.
J'accompagne.
Allez, j'ai avec vous, les gars.
Oh, oh, waouh. Oh, oh, il fait beau.
Attendez, ça sent bon.
Qu'est-ce que... Waouh.
Oh. Attendez, c'est un loup. Attendez, bougez pas, il y a un loup.
Un loup. C'est pas... Non, c'est...
Et il a un collier.
Il veut des caresses.
Attendez, attendez, ils ont le loup, il a été domestiqué.
C'est trop bizarre.
Regardez, il remue la queue, on dirait qu'il nous aime bien.
Tu veux boire, petit loup?
Tu veux une bière? Oh, il est parti. Attendez,
c'est... Il y a un truc tiré par des chevaux.
Quoi?
Je comprends pas.
Des chevaux?
Il y a un truc tiré par des chevaux là-bas. Regarde. Que tu dis réparer, c'est...
Mais si, il lui change les pattes.
Ah ouais.
Non, je veux dire... Ouais.
Ok.
Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ces petites... les petites filles, vous... Vous allez où? Elles sont parties.
Elles ont tous le même sac.
Où est-ce qu'elles vont comme ça? Qu'est-ce qui se passe, les gars?
Je comprends plus rien. Ça fait combien de temps qu'on est là-dedans? J'ai l'impression que ça fait... au moins... genre deux jours.
T'as de la barbe blanche.
Quoi?
Quoi?
Vous avez de la barbe
blanche? Moi, j'ai de la barbe blanche aussi.
Ah, tu te fous de moi... Est-ce que j'ai de la barbe blanche?
Bah ouais, t'as de la barbe blanche.
Oh.
Les gars...
Qu'est-ce qui s'est passé?
C'est un rêve ou quoi? C'est magnifique.
Cet extrait, il est fabuleux. On a trois gaillards qui sortent de leur entrepôt de souloir et qui s'aperçoivent que le monde dehors est magnifique. Parce qu'il a été géré depuis des années par des femmes qui ont installé des services de transport, des écoles, qui ont domestiqué le chien même.
Le loup,
du coup, devenu des chiens. Qu'a été l'impact de ça, des hommes qui sortent de cet entrepôt?
Ça, c'est des hommes qui ont réellement existé. C'est Vamir, Bénor et Palmel, qui étaient des nobles de l'époque.
Ils représentent les trois chemins que vont prendre les hommes à ce moment-là quand ils se rendent compte. Donc il y a Vanir qui va retourner se saouler et qui finira sa vie à retourner se saouler. Il y a
Bénor.
Oui, je voulais dire Palmyre avant.
Palmyre, ouais.
Palmyre qui va rejoindre cette société finalement, qui va tout faire pour rejoindre cette société et aider les femmes à la faire perdurer. Et il y a donc Bénor qui va essayer de reprendre le pouvoir. Considérant qu'il lui a été volé, quoi.
Oui, Bénor, qui était vraiment le cupide des trois. Et malgré les injonctions de son ami Palmyre à venir élever les loups avec lui.
Bénor se fera manger par un loup, d'ailleurs.
Oui.
Il pensera que
grandes guerres sumériennes.
Oui, il pensera que tous les loups ont été domestiqués, mais pas du tout. Et donc, il approchera trop près d'une meute de loups et il se fera dévorer.
Donc, de ces trois chemins-là... Avec le recul de l'histoire, quel est celui que prend la société sumérienne à cette époque?
Malheureusement, la société sumérienne prend le chemin de Bénor, qui reprendra le pouvoir durement et qui abolira beaucoup d'avancées sociales faites par les femmes sumériennes et par la fille de Pyrine.
En fait, c'est parce qu'il le prend par la force, c'est-à-dire qu'il va tout cramer. Bénor va tout cramer, et comme on l'a dit tout à l'heure, finalement, les Sumériennes à l'époque choisissent de se délocaliser, de changer d'endroit.
Et elles font de New Sumer.
De New Sumer, qui est une nouvelle ville, un micro-État, on dirait, aujourd'hui, qui est exclusivement féminin.
Un territoire indépendant, exclusivement féminin, tout à fait.
Voilà. Mais qui a longtemps été caché, finalement, qui est resté caché très longtemps, parce qu'on ne voulait plus qu'une tragédie comme Bénor s'abatte sur une société aussi avancée.
Mais avant d'être englouti par les eaux, au deuxième millénaire, ce sera peut-être la société la plus prolifique de l'époque, avec énormément d'avancées sociales et d'avancées technologiques qui ont été perdues par la suite, et qu'on a dû réinventer, mais oui, une des sociétés les plus impressionnantes de l'histoire.
La cité de New Sumer, qui...
D'ailleurs, si vous allez dans cette région du monde, vous pouvez, si vous avez votre baptême de plongée, bien sûr, vous pouvez prendre un bateau et aller plonger voir les décombres de New Sumer, qui est maintenant...
Oui, c'est magnifique.
C'est très, très bon.
J'étais faire du snorkeling là-bas.
Il y a encore beaucoup de choses qui restent inexpliquées.
Ah, oui. Il y a des vrais mystères. Vous pouvez vraiment vous balader dans ces rues avec votre bouteille et votre masque. C'est très beau.
Voilà. Vous y êtes allé?
Moi, j'y suis allé avec ma mère.
J'ai peur de l'eau.
Moi, j'ai été faire du snorkeling avec, euh, Oui, oui, avec Julien et sa mère. Et oui, on
a passé du bon moment.
Moi, c'est parce que j'ai peur de l'eau que j'ai pas été. C'est pas parce que j'étais pas invité, parce que je me souviens, vous m'aviez invité une fois.
Je crois.
Oui.
Mais voilà, donc c'est vrai qu'avec des histoires comme ça, finalement, avec un grand I, on se rend compte de ce qu'aurait pu être notre société et de ce qu'elle est aujourd'hui. En fait, on voit que tout découle forcément de quelque chose. Et puis on se rend compte que, ouais, si Brenner n'avait pas existé, que serait notre société aujourd'hui, peut-être ?
Il n'y aurait peut-être pas la bière.
Avant de terminer cet épisode, est-ce que vous avez des œuvres d'art, des livres, des films à conseiller à nos auditeurs et auditrices pour creuser ce sujet qui est quand même qui est pas anodin dans l'histoire, et pour creuser aussi les deux autres chemins qu'aurait pu donner l'histoire si jamais on n'avait pas créé cette binarité entre Summer et The New Summer.
Moi je vous conseille d'aller dans... C'est un endroit qui est peu recommandable. Mais là, je le fais. C'est une vraie reproduction d'un souloir qui a été fait. C'est à Nantes. Vous pouvez y aller. Ce qui se passe au souloir reste au souloir, j'ai envie de vous dire. Mais c'est assez intéressant d'y aller. On consomme des alcools, on ne sait pas vraiment ce qu'on consomme.
Oui,
c'est...
Ah oui, c'est une reproduction vivante. Enfin,
voilà.
On y va pour consommer.
C'est mixte, c'est pas exclusivement réservé aux hommes comme ça l'était à l'époque. Mais voilà, c'est...
Alors, emportez quand même votre pince-nez, parce que j'y suis allé, l'odeur est nauséabonde.
Ouais, voilà. Mais ça vous permettra justement de voir ce dont on parlait tout au long de cet épisode, de voir que voilà, c'était une époque quand même où il se passait des choses sombres. Voilà, je ne sais pas si vous êtes déjà allés, les gars. Moi, je...
Une fois, mais je suis sorti
juste une fois aussi. J'y vais pas souvent.
Non. Je pense qu'il faut emmener son duvet aussi parce que les lits sont vraiment pas de. Sont vraiment. Sont
ouais,
pas,
voilà.
sont...
Après, moi, j'en sais rien. J'y suis allé qu'une fois. Je sais pas.
Vous êtes... moi, je recommanderais le single de Yves Montand. Parce que vous l'aviez dit tout à l'heure. Vous l'aviez mentionné à demi-mot, Julien, tout à l'heure. Le soleil de Sumer, où on entend Yves Montand dire que le soleil de Sumer est pareil à tous les autres soleils, ce n'est pas lui qui a une influence sur la bière. Voilà, c'est une très jolie...
Le soleil de Sumer est pareil à tous les autres soleils.
Ah, Yves.
Ouais, oui.
Voilà, moi, je vous recommande bien évidemment la bière entre copains et les francs instants de camaraderie.
Oh là là,
comme on va partager vendredi tous les ensemble.
Oui,
avec Guillaume,
ça, c'est vrai.
Qu'est-ce que vous nous amenez comme bière cette fois, Alexandre ?
Ah bah je vous amène une. Je vous amènerai pas une IPA, ça c'est sûr.
Ah bah oui, non,
ce sera une bière au sarrasin qui vient de chez moi.
Ah, de chez vous.
Très bien.
Bon, j'ai hâte.
Guillaume, vous serez parmi nous ?
Mais bien entendu que je serai parmi vous.
Formidable.
Je peux manquer ça pour rien au monde. Et d'ailleurs, peut-être qu'il faudrait.
Rappeler
à nos auditeurs et auditrices.
Que l'alcool est à consommer
avec modération.
Avec modération.
Bien sûr.
Bien entendu. Ce sera le mot de la fin. Merci à nos invités, merci à vous qui nous avez écoutés. C'était l'Histoire avec un grand I pour un épisode aujourd'hui consacré à l'invention de la bière. Vous retrouvez l'émission en podcast sur prune.net, toutes les plateformes d'écoute et sur Instagram, compte l'Histoire avec un grand I. Rendez-vous la semaine prochaine.
C'était l'Histoire avec un grand I. Chaque semaine, retrouvez la fine équipe de l'Histoire avec un grand I afin de revisiter en improvisation totale un fait historique qui n'a jamais eu lieu.